Vous écoutez les Nuits de France Culture, la nuit Youssef Chahine se poursuit en compagnie de Marianne Coury et de Thierry Jousse. Si Saladin avait fait de Chahine un cinéaste vedette en Égypte, c'est en 69 avec La Terre qu'il obtient une notoriété internationale. C'est par exemple le premier de ses films à être distribué en France. La Terre, film magnifique que l'on ne saurait trop conseiller de voir ou revoir, dont vous dites, Thierry Jousse, qu'il est un film charnière dans le cinéma de Chahine.
Alors, je crois que ça correspond, c'est peut-être son premier film politique à part entière, même si ça, on peut jamais réduire un film de Chahine à une seule chose ou à une seule détermination. Il me semble que le film met quand même en scène la prise de conscience quand même de ça se passe dans les années 30, mais il y a une remise en cause peut-être du nasserisme de manière indirecte à travers, je dirais, une critique du pouvoir central qui est quand même un des thèmes du film. C'est des intrigues en même temps qui sont très très locales, mais qui à travers ce côté très local, finalement, rayonne sur quelque chose de beaucoup plus vaste et de beaucoup plus large. Et puis, il y a cette dimension... c'est un film à la fois classique et moderne, on pourrait dire. Il y a ce côté cinéma russe, là, pas de la même manière que dans les gens du Nil, mais disons, qui s'inscrit quand même un peu dans cette tradition-là. Et puis, il y a ce côté polyphonique qui commence à arriver aussi, qui va développer davantage dans les films qui vont suivre. Enfin, voilà, c'est un film qui me paraît appartenir à la fois... on pourrait dire à l'ancien et au nouveau monde tout à la fois, ce qui est assez particulier. Et vous mentionniez le fait que c'est le premier film de Chahine qui est sorti en France. Chahine disait lui-même, on l'avait republié d'ailleurs à l'époque, un article de Jean-Louis Bory, qui avait été décisif pour la connaissance du film, en tout cas en France, peut-être pas qu'en France d'ailleurs.
Il avait découvert au Liban, non ?
Ouais, c'est probable, voilà, c'est ça. Et Chahine avait été extrêmement sensible et il était très, très reconnaissant à Bory, qui était déjà bien. Qui est déjà mort à l'époque où j'en avais parlé avec lui. Enfin, il était très reconnaissant à Jean-Louis Bory d'avoir. C'est aussi l'époque, peut-être. On est dans l'après 68 en France, enfin dans une époque où il y a, à travers une idéologie plutôt à gauche, une volonté de se rapprocher aussi, enfin entre le monde occidental et le monde arabe. Et il y a quelque chose qui se joue là aussi, l'émergence d'intellectuels, peut-être d'une nouvelle génération de cinéastes aussi. Enfin bon, voilà, il y a un contexte qui fait que ça, c'est favorable d'une certaine manière, à l'émergence aussi d'un nouveau style, entre guillemets, pour Chahine.
Et d'ailleurs, une des choses notables dans La Terre, c'est l'habileté qu'avait Chahine à ne pas laisser son cinéma être dominé par l'idéologie, comme si l'essentiel était toujours ailleurs, plus loin ou à côté, avec toujours cette volonté d'affirmer qu'aucune idéologie, aucun pouvoir, aucune religion ne peut prétendre dominer la vie et le désir, Thierry Jousse.
Parce qu'il y a quelque chose de très incarné chez lui, il y a quelque chose de sensuel, on l'a peut-être pas dit encore vraiment, ou de manière indirecte, mais c'est un cinéma sensuel, sensualiste presque, on pourrait dire, qui à travers les acteurs, à travers les corps des acteurs, à travers... et puis, il n'y a pas qu'une vérité chez Chahine aussi, dans les films de Chahine, je pense. C'est important aussi de voir qu'il y a une forme de dialectique qui ne se résout pas forcément par une synthèse, d'ailleurs, au sens classique du terme, mais que c'est le miroitement de différentes affirmations, de différentes visions du monde qui constitue aussi à un moment donné le film. Et c'est au spectateur aussi de se faire, non pas une opinion, c'est pas qu'il renvoie tout le monde dos à dos, mais c'est que, c'est la fameuse phrase de Renoir, hein, tout le monde a ses raisons. Et c'est vrai que chez Chahine, il y a quelque chose de très proche de Renoir de ce point de vue-là, je trouve. Et de la même manière que Renoir était, quels que soient des moments un peu tendancieux dans sa vie politique, était au fond rétif à l'idéologie profondément, c'est la même chose effectivement pour Chahine. Je pense que son éloignement du nasserisme lui a permis d'avoir une conscience critique plus forte, quoi. Je pense que c'est ça qui me paraît, que lui-même, d'ailleurs, le disait lui-même, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais ça lui a peut-être permis d'ailleurs d'être de plus encore moins adhérer à quelque idéologie que ce soit. Ensuite, tout en n'étant pas pour autant, d'ailleurs, c'est pas du tout un cinéaste nihiliste pour autant, c'est même l'inverse, mais c'est la vie dans sa multiplicité qui l'intéresse.
Marianne Coury, tout en produisant toujours des films et des bons, cette industrie florissante qui était le cinéma égyptien va peu à peu décliner dans les années 60. Pourquoi ce déclin ? À quoi cela a-t-il tenu ?
Oui et non. C'est-à-dire que je vois là, par exemple, La Terre, ça a été produit en 1969, et puis il y a eu le magnifique film Le Choix qui a été en 1970, et ces deux films-là ont été produits par la société publique, en fait. Donc, ça a été un passage qui était excessivement important par rapport à ce qu'ils appelaient dans le temps la Moussassa. Donc, ils ont produit pendant cette période des films très intéressants, en fait. Donc, je ne pense pas que ça a été une mauvaise période.
Mais après la mort de Nasser, qu'est-ce qui a justifié, rendu nécessaire la création de la société de production Misr International Film que vous animez toujours aujourd'hui?
C'est exactement, vous arrivez là au bon moment, parce que ça a été en 1972 où Chahine a senti qu'il voulait être libre et très libre et se libérer des producteurs, de tout le monde, en fait, des institutions, et que il a fondé cette société en 1972 avec sa mère. Et le premier film qui a été produit au sein de cette société, c'était Le Moineau. Et c'était une coproduction avec l'Algérie. Donc, il essayait de trouver des moyens pour coproduire. C'était ça son intelligence aussi. Comment réaliser le film? Comment chercher des fonds pour faire le film qu'il voulait, en fait? Et c'était ça sa force.
Et d'ailleurs, le Moineau, c'est un film qui a été interdit pendant un certain temps. Pourquoi a-t-il été interdit pendant plusieurs mois, Marianne Coury?
Parce que dans le film, il y avait l'idée de la guerre de 73. Il y a la femme qui symbolise l'Égypte et qui sort.
C'est la guerre des six jours.
Oui. On va faire la guerre, on va faire la guerre, on va faire la guerre. Donc, il y avait toujours des idées un peu fortes.
Je pense que c'est un film qui est aussi à le défaut, entre guillemets, et la qualité aussi, surtout, de mettre en scène la défaite. C'est quand même un film d'introspection, d'une certaine manière, ouais, sur la défaite de la guerre des six jours et sur l'idée qu'au fond, il y a eu un aveuglement. C'est-à-dire, on a pensé, les Égyptiens ont pensé que ça allait être facile, au fond, que cette guerre allait être gagnée facilement, et évidemment, ça a débouché sur absolument l'inverse. Il y a aussi une autre dimension quand même dans le film qui est assez marqué et qui d'ailleurs apparaît aussi dans La Terre et probablement aussi dans Le Choix, si je me souviens bien, c'est la question de la corruption. C'est quand même, on montre dans le film...
Une société gangrénée par la corruption.
Voilà, une société corrompue, c'est quand même sous Nasser, même si là on n'est plus sous Nasser en 73, Nasser est mort, a quitté le pouvoir en 70. Bon, mais on est quand même dans un pouvoir qui est quand même chatouilleux, je pense, malgré tout. Donc, il y a cette dimension de corruption, et puis on sent que le film met quand même en scène... C'est comme si, à travers le Moineau, il mettait en scène sa propre, je sais pas si c'est déception, mais d'une certaine façon quand même, oui, une forme de déception de Chahine vis-à-vis du nassérisme et vis-à-vis de quelque chose auquel il avait cru, et du coup, d'une certaine manière, auquel la société égyptienne avait cru et auquel elle ne croit plus. Donc tout ça fait que, c'est un film complexe,
le Moineau. C'est un film qui influencera d'ailleurs aussi d'autres cinéastes dans le monde arabe.
Oui, je pense qu'apparemment, des cinéastes comme Mohamed Malache, par exemple, en Syrie, qui est un cinéaste important qu'on connaît mal en France, pour un film comme La Nuit, Marzak Alouache, semble-t-il, pour ses premiers films au Margat Lateau. Enfin bon, ça résonne de toute façon, je pense, très fort dans le monde arabe à cette période-là, qui est aussi un moment où il y a des intellectuels, des artistes, des cinéastes qui se posent beaucoup de questions. C'est des films de questions. Moi, je trouve ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est le moment de questionnement, voilà, de Chahine. Le Choix qu'on a évoqué, que Marianne vous évoquiez, qui est un film, dans mon souvenir, très passionnant, qui est un film sur un peu la schizophrénie, enfin, une histoire de double. C'est des films aussi qui intègrent aussi la dimension mentale, qui était moins présente avant dans les films de Chahine. Et là, tout d'un coup, on sent aussi que, sans être, il a toujours une certaine défiance envers, disons, ce qu'on appelle le cinéma moderne. Mais quand même, bon, il en a été quand même tributaire, inévitablement. Et on sent que c'est apparu là-dedans. Et donc, tout ça, c'est un cinéma de crise, quoi, je dirais, profondément. Et je trouve que c'est lui. Mais enfin, disons, il incarne, voilà, ce moment réflexif, ce moment de crise, ce moment de doute profond qui est en train d'arriver dans le monde arabe et notamment en Égypte.
Et c'est ça qu'on peut réunir sous l'étiquette trilogie de la défaite, avec le Choix, le retour de l'enfant prodigue et le Moineau.
Certainement, oui. Alors le retour d'enfant prodigue, c'est encore autre chose, parce que là, c'est une tragédie musicale. C'est un film quand même où il y a quatre ou cinq très grands numéros de comédie musicale, musicale.
C'est énorme.
C'est très impressionnant d'ailleurs, parce que là, on voit que Chahine a aussi une maîtrise de l'espace, et la chorégraphie qui est très très remarquable, et en même temps, c'est une espèce de tragédie. moi je crois que j'avais écrit que c'était une tragédie presque brechtienne sur un type qui revient dans son milieu d'origine, milieu bourgeois, et qui se retourne contre lui. Donc il y a un côté conscience malheureuse. Enfin, il y a là aussi une espèce de schizophrénie et une espèce de crise profonde de la société, enfin des classes dirigeantes aussi égyptiennes.
Au sein d'une famille aussi, voilà, parce que la famille s'entretue, donc il y a aussi le drame familial.
Donc c'est un retour aux origines de la tragédie, mais dans le contexte de l'Égypte de l'époque.
Bobo.
Nous venons d'entendre les dernières minutes du film Le retour de l'enfant prodigue de Youssef Chahine. C'est, je crois, Marianne Coury, la première fois que vous mettez les pieds dans la fabrication de ces films.
Ah oui, absolument. Absolument. Et c'est pour une raison qui n'a rien à faire avec le cinéma. C'est parce que Magda Roumi était arrivée à Beyrouth, au Caire.
La jeune actrice,
chanteuse. Elle était très
chanteuse.
Jeune. Elle avait mon âge. Et donc, elle est venue avec sa maman d'ailleurs, et moi j'étais là, parce qu'on est voisins, Chahine et moi, donc je suis descendue et je restais un peu avec elle, parce qu'on a exactement le même âge. Et d'ailleurs, ils ont pris l'uniforme, on était à l'école encore, donc ils ont pris l'uniforme, et toutes les filles qui sont dans le film portent l'uniforme du Sacré-Cœur, là, de l'école au Caire. Ouais, mais je disais justement à Thierry, c'est un film. Quand ce film a été revu là dernièrement pendant la rétrospective au Caire, les gens chantaient, toute la salle chantait. Les gens n'ont pas pu aller voir le film comme un film.
Il y a des les gens paroles qui ont été, sont qui très ont été fortes. Hein, que
oui,
nous
c'est
Salah
Shahin
hein.
qui est un énorme chansonnier,
auteur
de chansons. Et Kamel Tawil qui a fait la musique, et il y a Balir Hamdi, il y a Saïd Makawi, enfin c'est vraiment extraordinaire cette musique.
Thierry Jousse, vous-même, avec quel film avez-vous découvert le cinéma de Youssef Chahine?
Moi, c'était avec le film suivant, je crois, c'est-à-dire Alexandrie, pourquoi
donc, de 1978.
À sa sortie, donc je l'ai découvert à sa sortie. Parce que je m'intéressais déjà pas mal au cinéma et j'avais lu des bonnes critiques sur le film, tout simplement parce que ça, on commençait quand même à connaître un peu Chahine en France. Il y avait un intérêt de plus en plus grand. Et j'ai l'impression que
festivals qui étaient organisés,
oui.
des semaines.
De toute façon, il y avait un intérêt pour le cinéma arabe globalement à cette époque. Il y avait aussi une production assez passionnante. Enfin, voilà, des cinéastes de différents, pas seulement égyptiens, mais aussi du Maghreb. Enfin bon, il se passait des choses. Donc je pense que la France, qui, pour de bonnes et de mauvaises raisons, voilà, a un lien avec le monde arabe, pas tellement avec l'Égypte en soi, mais enfin surtout avec le Maghreb. Bon, en tout cas, il y avait une critique qui s'intéressait à tout ça. Donc moi, j'ai été voir Alexandrie, pourquoi, à l'époque.
Peut-être rappeler ce que raconte le film et quelle nouvelle dimension de son cinéma.
Qui est un film, donc le premier film strictement autobiographique de Youssef Chahine, donc un geste dont on a souligné, et qu'on peut le redire aujourd'hui ici, à quel point il était novateur dans le cinéma égyptien. égyptien et dans le monde arabe. Je crois que c'est le premier film qui était à la première personne, qui dit « je », et qui raconte la jeunesse de Shaheen pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, avant qu'il se clôt, me semble-t-il, par son départ aux États-Unis, où il va aller faire ses études, qu'on a évoqué tout à l'heure. Et je pense que c'est un film aussi qui, dans mon souvenir, parce que c'est pareil, je ne l'ai pas revu depuis très longtemps, était aussi un film assez audacieux, non seulement parce qu'il était autobiographique, mais parce que du coup, il racontait aussi des choses qui pourraient, enfin, en tout cas, qui n'étaient pas totalement dans la norme de ce qu'on devait raconter dans un film.
Oui, il y a une histoire entre soldats anglais.
C'est ça. Donc tout ça m'avait... Moi, j'avais beaucoup aimé le film, sans savoir très bien qui était Shaheen et sans avoir une conscience très claire de ce qui s'y jouait. Mais je me souviens que j'avais été sensible à ce film. Et d'ailleurs, je me souviens que je ne savais pas très bien comment... Ça correspondait à la... Bon, c'est un film, donc voilà. Mais en même temps, il y avait quelque chose qui me paraissait difficile à appréhender dans ce film, parce que ça ne ressemblait pas complètement non plus à ce que je voyais à l'époque, ni à des films américains ou français ou même italiens. Enfin, que c'était différent et je ne savais pas très bien comment le formuler finalement. Quoi.
Ouais, je pense que Alexandrie Poucault en particulier, c'est un film sur la grande histoire, sur la famille et sur quelque chose de très 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 personnel. Donc c'est vraiment un film qui est très personnel.
Pour le désir aussi, quoi, d'une certaine façon.
Absolument. Et je pense que c'est ce film qui a été vraiment un déclic pour beaucoup de cinéastes qui ont osé après lui faire des films à la première personne.
Est-ce qu'à un moment, le cinéaste Youssef Chahine a pu se dire aussi que le roman Chahine manquait à son cinéma, qu'il avait besoin peut-être d'y inscrire sa propre histoire et de s'y inscrire physiquement pour donner à son cinéma plus de poids, plus d'autorité?
Ça c'est le début d'une phase. Mmh.
Et ça s'est poursuivi avec La Mémoire ensuite, qui était, me semble-t-il, en compétition à Venise d'ailleurs, officiel de Venise, et puis plus tard Alexandrie encore toujours, où là c'est vraiment lui, parce que dans Alexandrie, évidemment dans Alexandrie pourquoi il ne pouvait pas jouer le rôle lui-même, et dans La Mémoire c'est Nourel Chérif qui joue le rôle, en tout cas, de Chahine. Oui. Et là c'est là où il raconte quand même, il commence à raconter vraiment sa carrière de cinéaste, puisque finalement Alexandrie pourquoi c'est avant, on est dans les années de formation, le roman d'apprentissage, voilà, dans ce creuset d'Alexandrie où il y a tous les désirs, voilà, les différents pays, différentes langues, tout ça se mélange, et alors que La Mémoire, qui est un film d'ailleurs plus, entre guillemets, plus bricolé, là il y a le côté collage aussi de Chahine qui fait aussi le charme de Chahine. Moi je pense qu'il a quand même, du coup il y a quand même un cinéaste qui a dû compter pour Chahine à cette époque, même s'il l'a peut-être pas dit de manière aussi claire, c'est Fellini, parce qu'on sent quand même que, un peu comme Fellini a libéré cette énergie-là dans le cinéma européen, alors il était peut-être pas le seul, c'était peut-être pas aussi audacieux, aussi fort, enfin ça l'était mais d'une autre manière, mais enfin disons Fellini symbolise un peu le cinéaste introspectif, mais en même temps homme de spectacle, sur 8 et demi, c'est quand même un peu cette synthèse-là. Donc on sent qu'il y a un peu la même chose chez Chahine 20 ans plus tard, et qui fait un peu cette révolution-là dans le monde arabe, et qui lui donne aussi quand même, du coup, j'ai l'impression... Alors, les films des années 70, de la fin des années 70, début 70, avec leur dimension quand même, entre guillemets, plus politique, lui avait permis, j'ai l'impression, d'atteindre un autre public, public de gauche, en Europe. Et avec ces films-là, il atteint encore à une autre dimension et à un autre niveau de reconnaissance, même si ça se matérialise pas. Parce qu'il me semble qu'Alexandrie Pourquoi était officiel de Berlin.
L'ours d'argent, oui, c'est ça, avec Alexandrie Pourquoi, voilà. Et c'est exactement depuis 40 ans, en 79.
Et La Mémoire, je me souviens avoir, à l'époque j'étais lecteur des cahiers du cinéma, je me rappelle d'un article, d'un compte-rendu de Festival du Venise par Olivia Sayas, qui n'était pas cinéaste à l'époque et qui n'est pas très influencé a priori dans son cinéma par Chahine, qui regrettait, qui aimait beaucoup le film et qui regrettait que le film n'ait pas eu plus de... Enfin, qu'il n'ait pas reçu de prix, me semble-t-il, dans Venise. En tout cas, que le film n'ait pas eu la reconnaissance qu'il aurait dû avoir.
Est-ce que c'est cette assise de Chahine qui pouvait lui permettre de dire ce que d'autres ne pouvaient pas se permettre de dire? Comme par exemple, si on revient à Alexandrie Pourquoi, parler de cette relation homosexuelle à peine voilée entre un nationaliste égyptien, un soldat anglais, une histoire d'amour entre une jeune fille juive et un jeune musulman. Des choses qui n'allaient et ne vont d'ailleurs toujours pas forcément de soi, Marianne Coury.
Oui, moi je pense que c'était sa force aussi, qu'il avait beaucoup de subtilité dans son cinéma et qu'il pouvait faire passer beaucoup de choses, qu'il disait en fait beaucoup de choses.
Il n'avait pas peur.
Non, il n'avait pas peur. Il était provocateur, mais sans vraiment...
Pratiquer l'art de l'esquive.
Donc il n'avait pas peur. Il le faisait avec subtilité, ruse, intelligence. et sensibilité et sensualité. Donc, ça faisait passer les choses.
Ça serait difficile de défendre la censure à ce micro, parce que ce serait quand même un petit peu compliqué, mais on peut dire que dans l'histoire du cinéma, il y a eu d'autres périodes, ne serait-ce qu'aux États-Unis avec le code Hays, où la censure a été, au fond, parfois presque, une pour les cinéastes, un catalyseur, enfin une manière de trouver des solutions ou d'intensifier une partie de leur tempérament pour réussir à faire des films qui faisaient passer en contrebande des choses finalement assez audacieuses, et c'est le cas de Shane, où c'est parfois même pas en contrebande, c'est parfois direct.
De manière très directe.
Ouais. Mais je pourrais presque défendre le paradoxe que la censure lui a donné. Enfin, c'était une censure avec laquelle il pouvait jouer aussi. Il y avait peut-être des formes de censure qui auraient été encore plus radicales et qui auraient peut-être été plus mortifères. Parce que, voilà. Mais enfin, on sent que ça l'a presque stimulé dans certains de ses films ou dans certains des choix qu'il a pu faire pour certains de ses films.
Si Shine ne manquait pas de dire son amour pour le cinéma de son enfance, de sa jeunesse, pour la comédie musicale, pour la chanson américaine, on l'entendait assez peu citer d'autres cinéastes, d'autres auteurs comme référence parmi les anciens ou ses contemporains, comme s'il vivait son aventure cinématographique en solitaire. Était-il un spectateur attentif, critique du travail des autres, Marianne Coury ?
Moi, je pense qu'il a eu des références qui l'ont accompagné au début de sa carrière et qui revoient les mêmes films, en fait. Mais je ne pense pas qu'il ait été très attentif au travail des autres pendant sa carrière. D'ailleurs, il n'avait pas le temps. Mais c'était vers la fin de sa carrière où il avait plus de temps et qu'il venait faire la post-production en France. Et comme il était dur d'oreille, il n'entendait pas. Alors, on cherchait toujours les films sous-titrés parce qu'il allait il pouvait voir. Et ça, c'était marrant.
Bah, il faisait quand même un film par an, hein. Donc un rythme qu'aujourd'hui très peu de cinéastes ont dans quelques cinématographies que ce soit. Quand on fait un film par an et qu'on est à l'œuvre quand même à la fois au scénario, impliqué dans la production, la préparation qui était très importante pour lui, la mise en scène, le montage, tout ça. Bon, ça prend quand même beaucoup de temps et ça laissait à mon avis assez peu de loisirs à Youssef Chahine pour voir beaucoup de films. Peut-être ça l'intéressait pas tant que ça. Non pas que ça l'intéressait pas philosophiquement, mais peut-être voilà, qui se disait que c'était pas là où il avait le plus de... Il y a des cinéastes qui ont toujours vu des films des autres, et d'autres qui n'en voyaient très peu. Donc oui, je pense que Shane fait plutôt partie de cette catégorie-là.
Marianne Coury, à partir de la fin des années 70, comment les choses évoluent-elles du côté de la production des films de Shane et plus largement du côté du cinéma égyptien ?
Comme on a dit, en 72, il crée cette société, et donc il produit des films assez importants. Et il est libre, en fait. Il est libre. Donc, il essaye de trouver des solutions pour produire les films. Donc, il a fait la coproduction avec l'Algérie. Ensuite, dans Alexandrie, pourquoi aussi, c'était une coproduction avec l'Algérie. Puis, La Mémoire, c'était les débuts d'un partenariat, en fait, avec une grosse société. Et quand c'était pour produire Adieu Bonaparte, en fait. Et quand il a découvert qu'ils n'étaient pas intéressés à produire Adieu Bonaparte, il leur a dit, bon, je m'excuse, mais on ne va pas continuer notre partenariat ensemble, parce que pour lui, c'était intéressant de coproduire les films et non pas de faire des studios et faire des cinémas. Et des c'était quelque chose qu'il voulait pour son propre cinéma. Et donc, cette société aussi a aidé à produire d'autres réalisateurs, dont Yousri Nasrallah, Asmal Bakri, Radouane El-Kachef, à cette époque, on était jeunes, des jeunes réalisateurs égyptiens. Mais il y a eu... vous savez, l'Égypte, c'est un grand pays de cinéma, donc il y a la grande industrie cinématographique, donc les films égyptiens commerciaux, si vous voulez, c'est des films qui rapportent beaucoup d'argent. Donc, parce qu'en Égypte, comme on a dit, il y a une énorme audience, donc un film égyptien, c'était pas les films dont on parle, c'est pas les films de Chahine et les films des autres réalisateurs qu'on avait produits à cette époque. Mais le film égyptien a une audience, vous voyez. Et puis là, il y a eu vraiment le démarrage de jeunes cinéastes qui voulaient faire des films indépendants et moins commerciaux. Et ça a été un chemin pour eux de commencer à poursuivre cette aventure.
Lorsque les films de Chahine n'ont pas marché, tu as été abattu ou surpris, ou tu te dis bon...
Moi,
on
pas
continue
du tout.
Quand
moi,
même.
Comme tu sais, ce film a été une aventure extraordinaire. Tant sur le plan anecdotique humain et son insuccès, je m'en doutais un petit peu parce que le thème était quand même déjà assez agressif et peut-être difficile appréhendé par un public ici et même en Égypte, puisque bon, tous ces films, c'est un peu comme L'Homme voilé aussi, qui sont à la frontière de plusieurs cultures, plusieurs mondes, plusieurs civilisations. C'est pas évident et c'est pas des films qui sont faits pour être évidents et aimer tout le monde. Ce sont au contraire des films qui essayent de faire bouger des choses. Alors le film Adieu Bonaparte a été une expérience fantastique, à tel point que quand Chahine, au montage d'Adieu Bonaparte, m'a demandé comment il pouvait faire un autre film en France, et qui m'a parlé de son amitié avec Dalida, j'ai dit comme une boutade, mais faisons un film avec Dalida. Et bon, c'est parti comme ça, et le film s'est fait, et c'était une grande chose de l'avoir fait. Et c'est un film unique que je suis très très content aussi d'avoir fait. Et bon, je crois que tout ce qui participe, alors en plus à une ouverture sur d'autres civilisations, d'autres cultures, d'autres univers, est bon pour le cinéma, même s'il y a des échecs sur ces films en particulier. Mais ce sont des ponts qu'on crée et qui serviront certainement plus tard à faire avancer les choses.
Nous venons d'entendre Humbert Balzan au micro de Serge Danet en 1987. Quel a été le rôle d'Humbert Balzan dans la production des films de Youssef Chahine à partir d'Adieu Bonaparte,
Marianne Coury? Magnifique, je suis tellement contente d'avoir écouté la voix d'Humbert Balzan qui m'émeut extrêmement. Et qui...
Oui, puisque nous l'avons dit tout à l'heure, vous étiez donc productrice et exécutive sur Adieu Bonaparte.
Oui, nous étions à l'hôtel Belmont, Chahine et moi en train de faire des comptes et des chiffres et des budgets et des je ne sais pas quoi. Et puis rentre un homme, enfin très beau, grande taille, avec des bottes. Et il dit, on y va. Et c'est pour ça, quand on a commencé l'émission, j'ai dit Yalabina, parce qu'il disait toujours, lui, Yalabina. C'était deux mots qu'il avait appris, et donc qu'il répétait tout le temps. Et donc, Humbert Balzan, c'était une énergie extraordinaire. Moi, j'ai compris ce que c'était un producteur grâce à Humbert Balzan. C'est-à-dire, c'était pas l'argent, mais c'était cette force intérieure qu'il avait pour accompagner les réalisateurs. C'est un vrai producteur. C'est un vrai producteur et c'est quelque chose, c'est magnifique. C'était une joie de le voir sur le tournage. D'ailleurs, à la fin, il était un peu fâché, Chahine, qu'il ne le voyait pas beaucoup parce qu'il n'allait pas bien, Humbert Balzan, mais on ne savait pas à quel point il n'allait pas bien. Donc, il aimait le voir, en fait.
Moi, je trouve que j'ai un souvenir. Bon, j'ai vu plusieurs fois Humbert Balzan, mais je crois que c'est le premier producteur de ma vie, que j'ai vu de ma vie physiquement. Après quelques mois de pigiste au Cahier, j'ai vu apparaître. Alors, c'était pas pour un film de Chahine à l'époque, mais un film de René Alliou, je me souviens, et je vois apparaître ce personnage très élégant, comme ça, mais très chaleureux en même temps, avec une espèce. Il y a un côté aristo dans le bon sens du terme, avec la liberté que parfois donne, que peut donner l'aisance comme ça de l'aristocratie. Et c'est marrant parce que je crois pas avoir vu, je sais pas si j'ai vu Chahine et Balzan ensemble, mais je vois que c'est un couple qui pouvait fonctionner parce qu'ils étaient à la fois très différents et en même temps je pense qu'à un endroit ils pouvaient se rencontrer. Absolument. Qu'il y avait quelque chose qui pouvait s'emboîter, si je puis dire, que c'est voilà. Mais en même temps, c'était deux personnalités qui paraissaient opposées à tous les niveaux d'une certaine façon.
Et Humbert Balzan a donc coproduit trois des films de Youssef Chahine.
Il a coproduit Adieu Bonaparte et ensuite Le Sixième Jour, ensuite
Alexandrie encore et toujours
et ensuite il a fait L'Autre et Le Destin et Alexandrie New York. Voilà, donc c'était pas mal de films.
Travailler avec Chahine sur le versant de production des films, c'était comment, Marianne Coury? Est-ce qu'il était un réalisateur raisonnable, facile, parfaitement conscient des contraintes et des réalités de la production?
Absolument. Il donne cette impression de... Il sait pas ce qui se passe. Mais comme il prépare très, 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 très bien, donc il sait exactement ce dont il a besoin, il sait exactement le temps qu'il va falloir. Donc, il sait préparer et il sait faire. C'est-à-dire, il y a les fameux plans de travail. Là, d'ailleurs, il y a un à la Cinémathèque pour un des films qui est très, très détaillé. Donc, Chahine préparait beaucoup avant de tourner, mais une fois que le tournage commence, il est réalisateur. Il n'est plus producteur. C'est-à-dire, il veut plus entendre parler de la production parce qu'il veut avoir toute la concentration pour le côté créatif avec les acteurs. Et il avait besoin d'avoir confiance en quelqu'un pour lui dire attention, là tu dépasses, là je ne sais pas quoi. Mais c'est quelqu'un qui est très bien organisé. C'est-à-dire, Shahin, s'il a 10 euros, il va faire un film. S'il a 10 millions d'euros, il va faire un film. S'il a 100 millions d'euros, il va faire un film. Donc c'était l'économie du cinéma qu'on apprenait très très bien avec lui. Parce que ces films, c'était pas des films simples. C'était des films techniquement très sophistiqués. Mais il maîtrisait ça très très bien.
Thierry Jousse, dans le microfilm que nous avons entendu, Shahin se montre un peu agacé d'être présenté par Dané comme le seul interlocuteur possible du cinéma arabe, le seul avec lequel on puisse parler. On sent même que la dispute n'est pas très loin. Pour autant, Dané avait-il tort alors ? Shahin n'était-il pas l'un des rares à avoir l'autorité, l'expérience, la liberté d'esprit et de parole, la connaissance intime aussi de la France, de l'Europe, des États-Unis et la tchatch qui permettait d'avoir avec les autres rives cinématographiques du monde une conversation suivie, facile, complice même ?
Bah oui, c'était l'interlocuteur idéal, on va dire.
Ça agaçait beaucoup, Shahin.
Oui, mais alors, c'est ambigu parce que je pense que ça agaçait pas mal de monde aussi en Égypte ou dans le monde arabe. Hein. Moi, j'ai eu l'impression qu'à un moment donné, il y avait des gens qui trouvaient que Shahin prenait trop de place.
Bien sûr.
C'était un peu. Donc, au fond, peut-être ça agaçait Shahin parce qu'il se disait on va me remettre encore plus dans cette position-là.
Être enfermé dans ce rôle.
Parce que c'est vrai, il y a cette idée de ne pas vouloir être enfermé dans
le référent.
Effectivement, il n'était pas le seul cinéaste qui pouvait, avec lequel les Français ou d'autres pouvaient dialoguer dans le monde arabe, mais de par son expérience aussi, sa carrière énorme, le fait qu'il ait parcouru comme ça des étapes très différentes du cinéma et du cinéma arabe notamment, je sais pas, je pense que c'était quelqu'un aussi avec qui, et puis cette facilité qu'il avait,
de communication.
De dialogue aussi, c'est quand même quelqu'un qui aimait beaucoup parler. Bon, mais ça a été aussi, je pense, le problème de l'évolution entre le cinéma arabe, on va dire au sens large du terme, et puis le cinéma français, c'est que peut-être aussi il n'y a pas eu de personnalités aussi fortes qui ont pu faire autant de films, aussi comme une carrière aussi longue, ou qui ont pu résister au pouvoir comme l'a fait Shahin en dehors de lui. Il n'y a pas l'équivalent ni en Tunisie, ni au Maroc, ni en Algérie. Celui qui était, d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y fait allusion au début du microfilm d'Annès, qui aurait pu être ça dans un tout autre registre, mais à côté beaucoup plus officiel et moins intéressant, c'est comme si là c'était Lac d'Aramina en Algérie, qui avait eu la Palme d'Or avec Chronique des années de Brest, donc en 75. Bon, donc qui aurait pu être le chef de file, qui parlait bien français aussi, voilà, qui avait un lien avec la France aussi. Mais ça n'a pas été, c'est pas un cinéaste du même niveau, quoi. Aussi, il n'y a pas cette multiplicité, ce monde shahinien qu'il invente. Donc ça fait aussi, c'est aussi ça qui fait que Shahin a été l'interlocuteur. Et puis je pense qu'il y avait cette idée qu'il était aussi un type très tolérant, quoi, Shahin. Enfin, qu'il avait ce creuset de culture dont on parlait tout à l'heure à Alexandrie. Enfin, bon, voilà, qu'il y avait ce, et que du coup, ça en faisait aussi, mais ça pouvait l'agacer, là aussi, mais un interlocuteur, assez idéal, quand même.
Youssef Shahin avait un attachement particulier pour la France. Il était marié à une Française et il entretenait des liens très étroits avec la Cinémathèque française. Il avait fait don d'une partie de ses archives auprès d'Henri Langlois et aujourd'hui la Cinémathèque est dépositaire de l'ensemble de ses archives de travail. Marianne Coury, pourquoi ces archives sont-elles ici et pas en Égypte ?
Je vais vous dire, Shahin avait commencé à ranger, classer ses archives avant son décès. Donc il s'organisait dans son espace de travail. Il avait un espace de travail comme ça où il travaillait, parce que ça dépendait des horaires de la journée. Le matin, il faisait de la production en haut et l'après-midi, il était dans son espace plus artistique, créatif. Et là, il avait rangé des découpages, des photos de famille, des photos et au cours des années. Et donc, après son décès, on faisait visiter les gens. Et chacun rentrait et disait « Ah, c'est magnifique, c'est bien, on sent, c'est très bien, tout ça. » Et puis, un jour, on a été, il y a Dominique Bax qui est arrivé en Égypte et qui a dit « Je veux faire une rétrospective, Shahin. »
Qui s'occupait du cinéma à Bobigny,
oui,
justement.
Oui, qui s'occupait du cinéma à Bobigny. Et donc, elle est arrivée toute seule au Caire et elle a dit « Je vais faire la rétrospective et je vais rassembler tous les films du monde entier. » On a dit « On n'a pas toutes les copies. » « Non, je vais rassembler. » Et justement, je l'ai vue travailler toute seule comme ça. Et elle a réussi à faire cette rétrospective à Bobigny. Elle nous a invités, mon frère et moi, et on a été. Et là, on a rencontré des gens qui étaient intéressés par les archives, des gens de la Cinémathèque, Émilie Coquiche. Et le lendemain, on va voir Serge Toubiana et on lui dit, écoute, on a les archives. Il dit, on emmène les archives en Égypte. Et donc, c'est un prêt pour 10 ans. Et là, on ne sait pas ce qu'on va faire encore.
C'est pas définitif, donc.
Non, c'est pas définitif que les archives restent ici, parce qu'on va faire un musée permanent en Égypte aussi. Donc l'idée, c'était que les archives soient déposées à la bibliothèque d'Alexandrie. Donc il y a encore, parce que Chahine avait envie que ce soit à la bibliothèque d'Alexandrie, le fait qu'il soit alexandrin, donc ça avait du sens. Mais on sent pas encore un grand intérêt de leur part, donc il se peut qu'on se dirige plus vers un musée privé. Et voilà, et donc avec la France, ça a été... C'est une histoire avec la France qui continue, en fait, après Chahine, parce que c'est pas juste déposer les archives, mais c'est une relation de cinéma qui est très forte, et on continue, en fait. On essaye de continuer.
Dès le milieu des années 70, après l'interdiction du Moineau, il faisait traiter ses négatifs hors d'Égypte.
Oui.
Les partenariats de coproduction avec la France n'étaient-ils pas aussi une manière de protéger son œuvre ?
Bien sûr. Bien sûr, parce que toute la post-production se faisait en France. Donc, au début, les films étaient HTC, ensuite Éclair, et voilà. Donc, oui, il a toujours fait la post-production en France. Et c'était aussi un moyen qui avait du sens pour la coproduction. Parce que les techniciens français étaient très... enfin, ils s'y connaissaient bien dans le son. Donc, ils faisaient le bon, disons, partenariat. Où ce n'était pas juste de l'argent qui allait ici ou là, mais c'était un partenariat entre les techniciens qui venaient en Égypte et puis faisaient la post-production en France. Oui, bien sûr que la France l'a aidé à pouvoir continuer sa carrière cinématographique.
Ennemi déclaré du fanatisme et des aveuglements idéologiques, Youssef Chahine était un homme de colère, mais pas un homme de haine. Les 20 dernières années de sa vie n'auront pas manqué de fournir à sa colère de la matière première, la politique calamiteuse de sa chère Amérique dans la région, l'évolution toujours plus catastrophique du conflit israélo-palestinien, une mondialisation toujours plus cruelle pour les plus pauvres, l'expansion du fanatisme islamiste, le dialogue de plus en plus compliqué entre l'Orient et l'Occident. Et encore, n'aura-t-il pas vu la suite, pas même d'ailleurs le rayon de soleil du printemps arabe ? Ce n'est pourtant pas par des brûlots anti-impérialistes en opposant le manichéisme au manichéisme que son cinéma a répondu à tout cela, mais avec l'émigré et le destin par l'éloge du dialogue entre les cultures, de leur métissage, l'éloge de la raison et de la liberté, et avec l'autre, certes plus violent, en renvoyant dos à dos l'intégrisme et une mondialisation destructrice. Tout cela sans que jamais ses films ne cessent de chanter et de danser. Marianne Coury, Thierry Jousse, qu'est-ce que ces films nous disaient de l'état du monde qui se dessinait à la veille du 11 septembre 2001 ? Qu'est-ce que Chahine en avait vu ?
En tout cas, c'est des films qui ont capté quelque chose, qui étaient là de toute façon, dont on voyait bien que ça est en train d'arriver. Mais j'étais frappé, pour revenir un tout petit peu en arrière, dans l'entretien entre Serge Danet et Chahine, qui date de 86, dont l'archive qui est diffusée ce soir, cette nuit sur France Culture, il parle déjà d'une question de repli sur soi, qu'il y a déjà un fossé qui est en train de se creuser entre... là, c'est essentiellement dans les rapports Orient-Occident, mais c'est déjà plus compliqué dans les années 80 que dans les années 70, donc on voit bien. Et alors après, évidemment, ça l'est devenu encore plus, et surtout, effectivement, il y a la montée de l'intégrisme dont vous parliez, qui est très présente, me semble. Alors c'est-à-dire que c'est intéressant parce que c'est à travers des sortes de fables aussi. En tout cas, dans l'émigré,
dans le destin,
ce sont des fables historiques, évidemment, qui ont un lien aussi avec l'histoire. Mais enfin, il les avait pas mis en scène de manière totalement directe, dans l'autre beaucoup plus. Et ça a eu un écho assez fort en France notamment. Là, je pense au Destin en particulier, puisqu'il a quand même eu ce prix. Je crois que c'était le prix du 50e anniversaire de la Cannes, qui doit d'ailleurs, semble-t-il, pas mal à Isabelle Adjani, qui était présidente du jury, qui a vraiment été, je crois, très sensible au film et aux propos du film. Ça a d'ailleurs donné une dimension supplémentaire, je pense, à l'œuvre de Chahine à ce moment-là. En tout cas, en France, on sent qu'il y a eu une résonance qui avait peut-être pas. Moi, honnêtement, c'est pas forcément les films que je préfère de lui. C'est-à-dire que
c'est une autre étape.
Moi, je préfère les films des années 70 ou 80, parce qu'il me semble que c'est là où la maturité de Chahine est la plus grande. Mais en même temps, c'est des films qui font partie intégralement de son œuvre. qui participe de son travail d'exploration, on pourrait dire. C'est beaucoup sur effectivement sur les rapports entre Orient-Occident, sur les rapports internes à l'Égypte et sur un cinéma politique finalement qui, comme vous le disiez, n'est jamais manichéen. Hein. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que il y a cette dimension, enfin il y a une dimension dialectique chez lui, mais qui n'est pas, qui ce sont pas des films militants au fond quoi. C'est ça que je trouve fort aussi chez lui, c'est que quand même il y a. Mais l'autre que j'ai vu, que j'ai pas vu à l'époque d'ailleurs, que j'ai vu plus tard, c'est un film qui m'avait frappé par sa violence en effet, parce que c'est plus rare dans les films de Chaïne, même s'il y a de la violence dans les films de Chaïne, c'est pas la question, mais j'avais été, je trouve que c'est un film là du coup qui lui attaquait la question de manière beaucoup plus frontale, mais qui revenait aussi à une thématique dont on a parlé tout à l'heure dans les années 70, c'est la corruption aussi, la question de la corruption qui touche les élites, comme on dit aujourd'hui, enfin qui touche les élites dominantes, enfin les dominants en Égypte, et là il y va directement quand même, je sais pas si le film
business,
a eu
la mondialisation, les États-Unis, tout ça.
Film avait eu des problèmes non en Égypte à cette époque-là.
Le premier succès de Youssef Chahine en Égypte, ah oui, c'est ça, l'autre, c'est parce qu'il avait fait une chanson entre Adam et Hanan en fait, et ça avait beaucoup aidé la promotion du film. Hein, donc ça a été le premier. Le destin n'a pas été un succès en Égypte, ça a été un succès en France et en Europe. C'est un film qui je pense qui est dans les curriculums des écoles maintenant. Oui, il est enseigné et il plaît beaucoup.
Bien sûr, mais c'est vrai que là, pour revenir sur le voyage que j'avais fait au Caire en 96, il se trouve que je suis arrivé au Caire un soir et que le lendemain matin, je me suis réveillé et qu'il y avait eu le premier grand attentat qui s'était déroulé à 5h du matin, un mitraillage d'un quart de touristes israéliens, je ne sais plus si c'était simplement des Israéliens, et qu'on sentait qu'on rentrait quand même dans un nouveau moment qui n'a pas pu laisser complètement indifférent Chahine malgré tout, mais ça ne veut pas dire qu'effectivement l'Égypte est entièrement. De toute façon, c'est un pays complexe, l'Égypte. D'abord, c'est un grand pays, et puis ça implique une histoire qui n'est pas la même que celle d'autres pays voisins. Et c'est vrai qu'en France, oui, vous avez raison de se souvenir.
Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est très
complexe. Moi, je trouve que les films de Chahine de cette période, en tout cas, on en aurait besoin. On en a besoin aujourd'hui aussi. C'est-à-dire que la situation ne s'étant pas particulièrement améliorée un peu partout. À un certain nombre de niveaux, là je parle pas spécialement de l'Égypte, hein, mais aussi de la France ou d'autres, je veux dire, on sent bien que c'est des films. Ce qui manque, c'est qu'aujourd'hui, nous, on voit très peu de films égyptiens en France. Hein. Vous voyez, c'est aussi un problème. Est-ce qu'il y a des cinéastes qui pourraient avoir
le même impact ils n'arrivent pas à accéder.
C'est ça.
Parce que Chahine, comme vous avez dit, il a beaucoup travaillé pour y accéder. Ce n'était pas un accident comme ça. Ça a été des années et des années et des années. Donc, mais il y a une jeune génération qui est très intéressante en Égypte.
Marianne Coury et Thierry Jousse, merci. Nous nous retrouverons dans plus de 2h30, juste avant la fin de cette nuit consacrée à Youssef Chahine, après avoir écouté Youssef Chahine pour son film Le Destin, au micro de Michel Simon dans Projection Privée en 1997, et enfin Le Bon Plaisir de Youssef Chahine par Simone Dweck en 1997. La nuit Youssef Chahine se poursuit sur France Culture.